Tous ou Rien est une émission entièrement consacrée à explorer le monde de Eve Merjanov.
Une personne dont nous ne savons rien, ou presque.
Une vie réduite à quelques lignes, des lieux, Nice et la mer Noire, une date, 1970.
Et aussi quelques mots essentiels. Macédoine, nihilisme, apiculture et rien.
Mais rien de plus.
Si nous ne savons rien de son genre, nous pouvons affirmer son appartenance aux hominines.
C'est-à-dire à la vaste famille qui va de Lucy, l'Australopithèque, à Conan le barbare, en passant par Néandertal. L'humanité actuelle est ce qu'il en reste.
Dans cette émission, nous employons le terme hominine pour parler des êtres humains. Quel que soit leur genre ou leur sexe, il nous permet de contourner les contraintes grammaticales sur le masculin et le féminin. Nous précisons seulement lorsque cela est nécessaire.
Tous les mois, l'émission Tout sur Rien propose des biographies d'hominines inconnues ou des démystifications d'idoles, des explorations géographiques insolites ou des réalités sociales singulières.
Elle tisse des liens entre F. Merjanov et sa réalité avec une bonne dose de capillotraction. L'art de tirer par les cheveux.
Elle se nourrit de toute l'absurdité du monde pour mieux le vomir.
Elle réhabilite des hominines qui comptent pour rien dans l'histoire avec un grand H.
Elle reprend à son compte ces mots d'un célèbre écrivain inconnu.
Dans nos familles, on boit dans des verres à moutarde. Nous ne sommes pas des aristocrates, nous manquons d'élégance et notre race est incertaine. Mais nous n'oublions rien.
Louis Chave, anti-esclavagiste éphémère et intemporel.
Chaîne de l'Estac.
Vestige géologique, la chaîne montagneuse de l'Estac s'étend sur presque 30 km entre, d'est en ouest, le quartier nord marseillais de l'Estac et la ville de Martigues. Elle est parfois aussi appelée chaîne de la Nerte, en référence au hameau du même nom dans le nord-ouest marseillais. Elle forme un isthme large de moins de 10 km entre la mer Méditerranée et l'étang de Berre. Elle culmine à 278 mètres d'altitude. Son flanc méditerranéen est constitué de falaises escarpées, dont certaines sont percées de calanques, sortes de vallons donnant directement sur la mer. Le nord de la chaîne de l'Estac débouche sur des plaines, puis des zones marécageuses à proximité de l'étang. Formant une lagune séparée de la mer Méditerranée, l'étang de Berre est une vaste étendue d'eau salée de 15 000 hectares, alimentée en eau douce par quelques rivières et profonde au maximum de 9 mètres. La présence des hominines est attestée, autant sur les flancs méditerranéens ou berriens de la chaîne de l'Estac, depuis des millénaires par des fouilles archéologiques. Le pourtour de l'étang est propice à l'agriculture, à la pêche et à l'extraction de sel. Dès les premiers siècles après J.C., les hominines ont tenté de faire communiquer l'étang de Berre avec la mer Méditerranée, séparée par le petit étang de Caronte et ses îlots. L'habitat des hominines entre les rives sud de l'étang de Berre et le nord de la chaîne de l'Estac est, au fil des siècles, devenu pérenne. Les agglomérations se sont faites urbaines. Les villes côtières de Martigues, de Marignane et de Vitrolles sont les plus grandes et les plus connues d'entre elles. Dans les zones de plaine se développent de petits villages, tels Châteauneuf-lès-Martigues, Le Rove ou Gignac, dont l'activité économique est plus tournée vers l'agriculture. Dès le début du XIXe siècle, le pourtour de l'étang de Berre est un lieu d'implantation de sites de l'industrie chimique. Obtenu à partir de sel marin par des procédés chimiques polluants, le carbonate de potassium est alors un incontournable pour les industries textiles et la fabrication du savon. La production d'acide chlorhydrique est un facteur important du recul des terres cultivables. Déjà, en 1830, les hominines de la région protestent contre les nuisances de cette industrie qui est la cause de nombreuses morts prématurées d'hominines et d'animaux d'élevage, ainsi que de la pollution des terres agricoles. Le creusement de l'étang de Caronte et la destruction de quelques-uns de ses îlots permet, en 1863, d'en faire un canal qui relie directement l'étang de Berre à la mer Méditerranée. Un pas est franchi pour faire des rives de l'étang la plus vaste zone de pollution industrielle de la région.
Depuis le fond des âges, depuis que le monde était monde, cette eau palpitait au soleil. C'était comme une flaque de mer anonyme, oubliée par le Créateur derrière un anneau de colline au bord de la Méditerranée. Et pourtant, les hommes la découvrirent. Et nous, 30 siècles plus tard, nous retrouvons leurs souvenirs.
Initialement rattaché à la seigneurie de Marignane, le village de Gignac devient une commune avec l'instauration de la République en France à la fin du XVIIIe siècle. La vaste plaine entre Châteauneuf-les-Martigues et Gignac est une zone d'agriculture où est élevée la chèvre du Rove et où le blé, l'olivier et la vigne sont exploités pour l'exportation vers les centres urbains alentours, tels Marseille. Au XIXe siècle, l'industrialisation grandissante de cette capitale régionale entraîne son essor démographique et une nécessité permanente de main-d'œuvre pour travailler dans les ateliers ou au port, qui reste son activité principale. L'activité agricole dans la plaine emploie de très nombreux journaliers locaux et des hominines venus d'autres pays. Louis Chave naît le 11 avril 1862 dans l'ancien quartier des Maisons Neuves à Gignac. Son père, Noël Chave, est un agriculteur né à Septem, à quelques kilomètres à l'est, et sa mère, Henriette Guirand, originaire de Gignac, est couturière. Après leur mariage, le couple d'hominines s'installe dans le centre de Gignac. Outre une sœur aînée, Louis Chave a deux frères et deux sœurs plus jeunes que lui. Noël Chave est employé en tant que cantonnier communal dans le début des années 1860, puis devient chiffonnier dans les premières années de la décennie suivante. Sans doute accaparé par l'élevage des six enfants, Henriette Chave se dit sans profession lors du recensement de 1864, avant de se déclarer elle aussi chiffonnière. En parallèle de ses activités, le couple d'hominines s'occupe de maintenir une agriculture domestique pour subvenir à leurs besoins, ceux de leurs enfants et ceux du grand-père maternel qui vit avec elle. Lorsque Noël Chave décède prématurément en 1872, Henriette Chave se retrouve seule avec à sa charge six enfants âgés de 1 à 11 ans et son père presque octogénaire. Louis Chave est alors âgé de 10 ans.
Chaîne marseillaise.
Les autres chaînes qui entravent les hominines sont les institutions religieuses. Malgré les critiques ouvertes et la perte progressive de son pouvoir au cours du XIXe siècle, la religion reste ancrée parmi les hominines. Outre les lieux de culte, de moins en moins fréquentés, elle est présente dans les œuvres caritatives et les ordres monastiques. Afin de sauver leurs âmes et d'empêcher le déclin de la religion, les hôpitaux et les orphelinats sont pour leurs adeptes des lieux privilégiés pour conserver une emprise de la mythologie christienne sur les hominines. Grâce à l'aide financière des institutions religieuses et de riches familles, la charité est une œuvre de propagande. En contrepartie d'une éducation ou de soins, les enfants, les misérables et les malades sont contraints d'écouter les élucubrations religieuses et d'ingurgiter la moralité des chrétiens.
La bouse de vache est plus utile que les dogmes, on peut en faire de l'engrais. D'après Mao Tse-tung, jeune paysan anarchiste chinois qui tourne mal.
Il est difficile de cerner les années de jeunesse de Louis Chave, tant les archives disponibles sont maigres. Les sources judiciaires et journalistiques indiquent qu'il est envoyé dans un pensionnat d'Aix-en-Provence avant d'être placé dans un établissement religieux de Marseille, accueillant des enfants pauvres, orphelins de père et de mère, sains de corps et d'esprit, âgés de 7 ans révolus et de moins de 11 ans. Les méthodes éducatives sont faites de brimades et de sermons. La tenue obligatoire est un uniforme bleu avec une étoile blanche. Selon l'encart publicitaire de l'Indicateur marseillais, les orphelins sont placés en apprentissage à leur 14e année. Située alors 46 rue Reynard, actuelle rue Louis-Auguste Blanqui, l'œuvre des enfants de la Providence, dit enfants de l'étoile, gère ainsi l'éducation de quelques 150 enfants, lesquels sont régulièrement employés pour accompagner les enterrements et faire nombre lors des processions. De manière générale, les orphelinats et les prisons pour enfants, administrées par des associations ou des institutions religieuses, permettent de former et de fournir de la main-d'œuvre à destination d'entreprises locales ou de l'entretien des élites. Les jeunes hominines mâles seront ouvriers ou domestiques, par exemple. Les femelles seront couturières ou cuisinières. À ses 14 ans, Louis Chave entame son apprentissage. Il sait lire et écrire. Le recensement à Gignac de 1876 le mentionne en tant que cultivateur, avec sa mère, son jeune frère et sa sœur la plus jeune. Sa sœur aînée, ainsi que sa sœur Julia et son frère Martin n'apparaissent plus. Peut-être ont-ils été aussi placés dans un orphelinat. Louis Chave a-t-il réellement terminé son apprentissage ou est-il retourné à Gignac pour aider sa mère? Lors du recensement de 1881, il est indiqué que la mère vit avec sa fille aînée, de retour, et est devenue couturière, et avec Louis, toujours cultivateur. Le restant de la Delphine n'est plus présente. Est-elle encore à l'orphelinat? L'activité de chiffonnière de la mère Guiran, veuve chave, n'est sans doute pas suffisante pour subvenir aux besoins de l'ensemble des enfants. Louis est d'ailleurs dispensé en 1882 de son service militaire obligatoire dans l'infanterie, au motif qu'il est fils aîné d'une veuve. Cette dispense exclut donc l'hypothèse qu'il ait pu servir dans l'armée coloniale française au Tonkin et en Tunisie, comme l'affirme un historien et biographe de la future patronne de Louis Chave. La fiche militaire donne de rares indications physiques sur Louis Chave, le décrivant brun aux yeux gris et mesurant 1m66, robuste et portant une légère moustache, selon la presse locale.
Chaîne bucco-rhodanienne.
L'échec des différentes tentatives de proclamer des communes autonomes dans plusieurs villes de France, dont Marseille, et leur répression sanglante n'ont pas empêché que les idées révolutionnaires se diffusent dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans un contexte d'industrialisation, d'essor urbain et d'exode rural. Les usines et les ateliers, toujours plus grands, toujours plus nombreux, attirent moult hominines qui viennent y vendre leur force de travail pour échapper à la misère quotidienne. Les conditions de travail et l'exploitation économique n'ont rien à envier à celles des hominines travaillant dans l'agriculture ou l'élevage, en périphérie des zones urbaines. Les salaires sont médiocres et les emplois incertains. L'esclavage se modernise. Les protestations se manifestent dans des journaux et des associations d'hominines qui soutiennent et participent à des pétitions, des blocages ou des grèves. Le panel politique de cette presse et de cet activisme révolutionnaire va des socialistes réformateurs aux anarchistes, en passant par les marxistes ou les socialistes radicaux. Les grilles de lecture et les modes opératoires pour se sortir de la misère et de l'exploitation sont très différents. Là où la patience active est défendue par les plus tièdes, le réalisme, l'impatience se fait action pour celles qui refusent d'endurer une minute de plus leurs conditions de vie déplorables, la réalité. L'expression radicale de ce refus opte pour des formes de violence contre les biens et les personnes.
Ma vie n'est rien. Ce qui compte, ce sont les raisons de ma vie. Je ne suis pas un chien. Albert Camus, L'état de siège, cité à l'entrée bestiaire dans Analecte de rien.
L'immigration venant d'Italie est importante à Marseille et alentour. Main-d'œuvre bon marché, ces hominines viennent travailler dans les activités portuaires et l'agriculture. Elles sont la variable d'ajustement des besoins grandissants de l'économie de la région. Même si beaucoup s'installent, les tensions entre les communautés françaises et italiennes ne sont pas toujours apaisées et tournent parfois au lynchage. Les registres d'état civil de plusieurs villes et villages de la chaîne de l'Estac, de Marseille à Martigues, montrent que les hominines originaires d'Italie représentent une forte proportion de la population. Parmi elles, quelques anarchistes.
Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur.
Ah, 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 ah oui.
D'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. La, 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 yeah.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
De travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron,
merci patron,
merci patron,
merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes.
Ah, 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 ah oui.
Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges.
Like you like you like yeah.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous.
Merci patron,
merci patron,
merci patron,
merci patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Oui, c'est ça.
Mais en attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir.
Oui.
Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle, et nous nous occuperons de vos ennuis de patron. Nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons.
À vous le plaisir de travailler pour nous.
Vous serez heureux comme un fou.
Nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons.
Ce que vous avez fait pour nous,
nous le referons pour vous.
Et il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.
Les grands propriétaires disent qu'il manque de bras à la campagne. Il est incontestable que le paysan est forcé d'émigrer dans les villes, puisqu'en fouillant le sol pour un maître, comme un esclave, on ne lui donne pas un salaire suffisant pour le préserver de crever de faim. Que l'on fasse une statistique de la moyenne de sa journée, pour savoir avec quel salaire il est forcé de se nourrir, en tenant compte du chômage qui est bien plus écrasant que celui de certains ouvriers. Il pleut, il ne fait rien. La terre est trop humide, on le renvoie au lendemain. Il tombe de la neige, il faut attendre qu'elle fonde. Il fait mauvais temps, il ne peut résister à la longueur de cette tempête. En attendant, il faut toujours manger. Et quand on vit au jour le jour, combien y en a-t-il qui, pendant ce terrible chômage, manque d'un morceau de pain de seigle ou de quelques pommes de terre pour se les mettre sous la dent. Séverin Ferraud, Fraser et Prolétariat, 1884.
Le recul de la pêche, l'exode rural et l'extension des exploitations agricoles sont quelques-uns des facteurs de l'appauvrissement des populations paysannes de la plaine Château-Novo-Gignacaise, contraintes d'accepter les conditions de travail et des salaires de misère. Un petit groupe d'anarchistes de la région publie le 16 août 1882 le premier numéro du journal Le Paysan Révolté. Venant du hameau de Saint-Pierre-les-Martigues, Séverin Ferraud est l'administrateur officiel de ce nouveau bimensuel. Il se rend à une réunion internationale en Suisse puis rencontre en septembre à Lyon les hominines de l'étendard révolutionnaire. Séverin Ferraud donne le ton dans un article publié dans ce journal anarchiste. Paysans, occupons-nous à nous procurer des matières explosives pour détruire les repères où logent les voleurs de notre récolte, qui ont encore l'audace de s'intituler nos bourgeois. Faisons disparaître par tous les moyens l'exploitation et par le feu cette caste monstrueuse qui vit dans les jouissances de notre travail. L'autre hominine à apparaître nommément est Sauveur Couloubrier, le correspondant à Marseille. Imprimé dans cette ville par Joseph Doucet, le journal n'existe que le temps de deux autres numéros, datés des 1er et 15 septembre 1882. L'interruption de la parution du journal n'est pas synonyme d'inactivité. Dans un article publié en décembre 1883 dans le journal L'Émeute de Lyon, les anarchistes de la plaine rappellent que le groupe Le Paysan Révolté se prépare à une étude de destruction complète pour en arriver bientôt à une prompte révolution. Il s'agit d'étudier les moyens de réussite pour mettre le feu partout où ces moyens le permettront. Les membres de ce groupe se dirigeront principalement dans les grandes villes pour incendier toutes les institutions qui sont nuisibles à la classe des déshérités et à défaut de pouvoir choisir de réduire ensemble tout ce qui nous opprime. Ils mettront plutôt tout en flamme tant qu'il y aura pierre sur pierre. Dans notre prochaine correspondance, nous ferons connaître notre plan pour que tous ceux que ça intéresse s'y associent. Le projet est clair. Et les frontières toujours aussi poreuses entre nihilisme, anarchisme et individualisme, proches comparses de la révolte. Le groupe n'est pas isolé, en lien avec d'autres groupes anarchistes à Marseille, dont le ton est tout aussi enflammé. En 1884, paraît la première brochure du paysan révolté, intitulée « Fraser et Prolétariat » et signée « Séverin Ferraud », dans laquelle il décrit les conditions de vie des hominines dans l'agriculture périurbaine, sensiblement différentes de celles des hominines en contexte urbain. Mais le but est commun, la destruction de toutes les formes d'exploitation.
Vous savez qu'ils ignorent qu'on connaît ce qu'ils pensent. Donc, vous savez qu'ils pensent connaître ce qu'on ignore.
Par ici, on n'aime pas trop les gens qui pensent trop en savoir.
C'est ce qu'ils croient. Si vous pensez qu'ici, on peut penser que les gens qui se pensent tout permis de penser que par ici, les gens ont tous les droits de penser qu'ils aiment pas trop les gens qui pensent pas comme ça, alors on se met le doigt dans l'œil.
Ouais, c'est ce que je pense.
Exactement, on pense toujours du mauvais côté de la balance. Et ça, Si on continue de penser qu'on croit savoir, qu'on ignore, qu'on sait ce qu'ils savent, alors là, on peut savoir qu'ils
ignorent la vérité, je sais.
Mais moi, je sais que vous croyez qu'ils savent.
Et qu'on croit qu'on pense savoir ce qu'on sait.
Mais c'est ce qu'on croit, ils nous connaissent.
Vous croyez ?
Non. Sauf si je savais qu'ils penseraient ne rien savoir de ce que je pensais connaître.
Vous l'ignoriez.
Comment je pouvais savoir qu'ils ignoraient que j'étais au courant de ce qu'ils savaient ?
Je sais.
On ne sache pas qu'ils croient ce qu'ils savent, qu'on pense qu'ils peuvent...
Je croyais qu'ils se paillent.
J'ignoriais qu'ils paillent.
Vous sachez qu'ils croient s'achoir.
Je sachais plastique bien avant de s'achoir.
Sachez qu'ils sachaient.
Ils se chaussaient chassés.
Oui, c'est ce qu'ils sachent.
Ils sachent bien ce qu'ils croient.
C'est ce qu'ils croient un moment.
Impossible de retracer les méandres qui menèrent Louis Chave vers l'anarchisme. La présence des anarchistes est visible à travers les manifestations, les réunions publiques et les journaux. Ceux-ci circulent à travers le territoire français et échangent des analyses et des informations pratiques. Louis Chave est lecteur, par exemple, du journal anarchiste Le Défi, de Lyon. Le ton des articles est explicitement en faveur d'une utilisation de formes de violence pour mettre fin à la misère et à l'exploitation. Non pas une violence aveugle ou collective, mais ciblée et individuelle. Que les notables, les riches et leurs suppôts payent l'addition. Ni Dieu, ni maître, ni garde champêtre. Que leurs biens s'envolent en fumée. Son prédécesseur, le journal La Lutte, propose une excellente rubrique « Produits anti-bourgeois », dans laquelle sont expliquées différentes utilisations de matières explosibles et inflammables les plus connues, les plus faciles à manipuler et à préparer, en un mot, les plus utiles. En cette fin de 19e siècle, les occasions sont multiples pour un jeune hominine de Marseille de rencontrer l'anarchisme. Tout aussi multiples que les raisons. Des célébrations de la Commune à la manifestation en solidarité avec une révolutionnaire russe en 1881, de la venue de Louise Michel aux grèves sur le port ou dans les ateliers, les protestations contre la répression, Louis Chave a pu croiser la route de l'anarchisme tout au long de sa jeunesse marseillaise. Probablement entre 1880 et 1882, de compagnon de misère, il se fait compagnon de lutte. Dans ce cas, il rencontre Séverin Ferraud alors que le projet de publier « Le paysan révolté » est encore en gestation. Louis Chave participe à un petit groupe d'anarchistes qui se désigne « paysan révolté », comme le précise un article signé ainsi. « Notre ami, le compagnon Louis Chave, ce vaillant anarchiste qui habitait notre région, faisait partie de notre groupe. » Mais rien de précis quant à ses activités au sein des paysans révoltés. Peut-être ne fait-il leur rencontre qu'à partir de 1883, lorsqu'il recherche un emploi à Marseille et non pas dans les plaines de la chaîne de l'Estac. Rien ne permet d'en dire plus. Louis Chave vit pauvrement, réduit à boire de l'eau et à rogner sur la nourriture, selon ses propres dires, et parvient très difficilement à préserver sa mère de la misère. Aujourd'hui synonyme de zone commerciale, et avant qu'il ne devienne un quartier marseillais, la Valentine est à la fin du 19e siècle un petit village d'environ 500 hominines. Situé sur la rive droite de l'Uvonne, il est à 10 km du centre-ville de Marseille et du port. L'ouverture vers 1850 du long et sinueux canal de 80 km qui relie la Durance à la ville de Marseille, pour son alimentation en eau, en passant par la Valentine, améliore l'irrigation pour l'agriculture et l'utilisation de la force hydromotrice pour les industries. Outre le village à proprement dit, la commune est parsemée de propriétés au vaste terrain, appartenant à de riches familles dominines de la région marseillaise.
Au nord-ouest de la Valentine, sur la route qui mène au village de Saint-Julien, la demeure de la Serviane et ses dizaines d'hectares environnants sont la propriété de la famille Deluile-Martigny. Entourée d'oliviers et de champs de blé, le lieu est une résidence secondaire pour cette riche famille de chrétiens marseillais. Marie Deluile-Martigny naît en 1841 sur le haut de la Canebière, dans le centre de Marseille. Encouragée par un environnement familial très porté sur la chose religieuse, la jeune hominine perd progressivement pied avec la réalité et s'enfonce dans les croyances les plus absurdes. Après une première tentative avec la garde d'honneur du Sacré-Cœur, elle met en place la Société des Filles du Sacré-Cœur, dont les membres sont chargés de se relayer pour prier en permanence devant des reliques religieuses. La sœur Marie est une vraie fanatique. Elle pense qu'il est nécessaire qu'une prière continue soit dite pour réparer les offenses faites au prophète Jésus à Clachrist. Possédée, dans un style à rendre jaloux Gilles Deleuze, tant cela est incompréhensible, uniquement destiné aux adeptes, elle écrit que « chaque battement de nos cœurs devrait être un acte d'offrande de Jésus et d'union à son sacrifice perpétuel pour la gloire du Père. Cachés, perdus en Jésus-Christ, revêtus de Jésus-Christ, tellement unis à Jésus-Christ que sa vie devienne notre vie, voilà ce que nous devrions être pour atteindre la fin du sacrifice de Jésus. » Dans son délire, elle affirme qu'il serait mort pour racheter les mauvaises actions des hominines. Aidé par les finances familiales et la bénédiction des autorités religieuses, Marie de Lille Martini décide d'ouvrir un couvent dédié à la prière et est régie par les règles de la Société des Filles du Sacré-Cœur. Cédée par ses parents, le domaine de la Serviane est le lieu choisi par la fanatique pour canaliser ses fièvres religieuses. Le couvent est officiellement ouvert en 1879. Il accueille exclusivement des hominines femelles issues de riches familles. Si Marie de Lille Martini est fille d'avocate et homme politique, son assistante au couvent, Léonie Levasseur de Sorval, est fille de général. Habituée à une vie bourgeoise, la vingtaine de religieuses présentes au couvent s'entoure de domestiques nécessaires à la satisfaction de leurs caprices mystiques. Se faire servir par des hominines dans la réalité pour mieux servir une divinité irréelle.
Dominique, Nique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, convertit les albigeois. Dominique, Nique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique, Nique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre.
Louis Chave est embauché au couvent en tant que jardinier et homme à tout faire début novembre 1883 pour le maigre salaire de 60 francs par mois. Ses difficultés financières sont l'argument principal pour qu'il accepte ce travail, malgré le salaire insuffisant et des patronnes extrémistes chrétiennes. Dans le besoin, il sollicite une augmentation début janvier 1884, mais est menacé d'être licencié pour toute réponse.
Alors voici ce que je répondis à la supérieure. Je suis las de la vie. Hélas de chercher des places. Si vous me renvoyez, pour moi, c'est le suicide, c'est la mort. Elle me fit répondre le lendemain par sa contre-maîtresse, la sous-supérieure, que si je voulais rester, je pouvais rester, mais qu'on me donnait plus que 50 francs par mois. Que voulez-vous ? Je fus forcé d'accepter, étant au mois de janvier, au cœur de l'hiver, sans sous et sans place. D'ailleurs, ce ne fut pas pour moi, car depuis quelque temps, je ne tiens plus à la vie. Ce fut pour ma pauvre et vieille mère que je le fis, car j'en fus réduit à boire de l'eau et à rogner sur la nourriture. Lettre de Louis Chave du 27 février 1884.
L'esclavagiste en chef, Marie de Lille Martini, prétexte que le travail de Louis Chave n'est pas suffisant pour justifier la diminution de 10 francs. Mais elle change d'avis et lui fait annoncer dans la matinée du 22 février 1884 par Léonie Levasseur de Sorval qu'il est définitivement mis à la porte à compter du 1er mars. Finalement, dans la journée, l'esclavagiste décide de se débarrasser sur le champ du jardinier car, selon elle, elle n'a ni la nécessité ni les moyens de s'offrir ses services. Louis Chave est sommé de quitter le couvent des fanatiques religieuses dès le lendemain matin. Sans préavis, ni possibilité de se retourner, il se retrouve sans travail. Le 23 février, il est jeté à la rue par ses filles de famille bourgeoise qui ignorent tout de la pauvreté.
Malgré mon avertissement formel, que pour moi c'était la mort, malgré ma bonne volonté que j'ai mise à faire tout mon possible pour y rester, enfin, malgré tout, on me condamne à mourir. Je suis forcé, de par ces deux tyrans en jupon, de mourir. Lettre de Louis Chave du 27 février 1884.
Déchaînement.
En réaction à cette mise à mort, Louis Chave est décidé à réagir rapidement. Avec en tête la comptine « On pendra le dernier curé avec les tripes du dernier patron », il envisage de se venger de ses fanatiques et esclavagistes. Et la vengeance sera à hauteur du crime. Œil pour œil, dent pour dent, comme disent les religieuses. Dans la matinée du 24 février 1884, Louis Chave poste deux lettres. L'une est adressée à sa mère, à Gignac, l'autre à lui-même, à l'adresse du couvent de la Serviane. Dans la première, il explique sa situation de misère et justifie son projet de vengeance à venir. Une lettre d'adieu. La seconde lui sert de prétexte pour retourner au couvent quelques jours plus tard.
Quand on dit à une femme, « Madame, si vous me mettez à la porte, pour moi c'est le suicide, c'est la mort, et que cette femme sans entrailles, sans cœur, pourrie par tous les vices, ne tient aucun compte de cela, et avec gaieté de cœur et sans motif justifié condamne un homme à la mort. Il est juste et raisonnable que cet homme, avant de mourir, ait au moins la satisfaction de la vengeance. D'ailleurs, je rendrai un service à la société et j'accomplirai un grand devoir. » Lettre de Louis Chave à sa mère, datée du 25 février 1884.
Si la lettre à sa mère ne parvient pas à destination, car interceptée par les forces de l'ordre, celle envoyée au couvent arrive à bon port, le 26 février. Dans la matinée du 27, Louis Chave poste deux nouvelles lettres. L'une adressée au journal local Le Petit Provençal, l'autre au journal lyonnais L'Hydre Anarchiste. Dans la première, il donne une dimension sociale à son futur acte de vengeance. Dans la seconde, il en revendique le caractère politique. Son projet vengeur est ambitieux et il le sait fatal pour lui aussi.
Donnons la mort sans crainte et recevons-la sans émotion. Et puisqu'on nous refuse la vie, sachons au moins mourir. Je vais commencer par incendier un couvent de religieuses, mettre à mort la supérieure et la sous-supérieure qui m'ont jeté sur le pavé. Lettre de Louis Chave à L'Hydre Anarchiste du 27 février 1884.
Après avoir posté ces lettres, Louis Chave se dirige vers le couvent de la Serviane pour, officiellement, y chercher son courrier. Arrivé sur place, dans le début de l'après-midi, il retrouve les fanatiques déambulant par grappes dans le jardin. Il s'approche de l'esclavagiste en chef, Marie de Lille Martini, sort un pistolet et tire deux fois dans sa direction. Touchée mortellement au cou et à la poitrine, elle s'effondre. Venue pour la secourir, l'esclavagiste en second, Léonie Levasseur de Sorval, est frappée de multiples coups de crosse alors qu'elle tente d'arrêter Louis Chave et reçoit à son tour trois balles dans le corps. Blessée, elle gît inanimée. Tristement contraint de revoir à la baisse ses projets, Louis Chave abandonne l'idée de mettre le feu au couvent et, profitant de la pagaille, parvient à s'échapper de la Serviane. Traqué par des hominines du village, il est arrêté à environ 1 kilomètre du couvent. Après quelques tirs dans leur direction, sans les toucher, deux gendarmes ripostent et tuent Louis Chave. Juste avant d'être abattu, il s'écrie en provençal « Je me suis tué ». Sa dépouille est abandonnée sur place, jusque dans le courant de la nuit, puis amenée au cimetière Saint-Pierre. Dans un premier temps, son corps est mis à la morgue, puis inhumé dans la fosse commune le 4 mars vers 7 heures du matin, selon le registre de Saint-Pierre. Par la suite, ses restes sont transférés dans l'ossuaire collectif, où ils rejoignent ceux d'autres hominines à l'abandon.
Vous avez 3 minutes, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Top.
Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai ajouté des choses pas très catholiques. Je crois que Satan m'habite. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Ben, je suis venu à confesse parce que Satan m'habite.
Enchaînement.
Dès le 28 février, la presse locale relate les événements de la Serviane. Le Petit Marseillais titre « Double assassinat au couvent de la Serviane ». Et le Petit Provençal publie l'intégrale de la lettre que Louis Chave lui a envoyée la veille. Ils annoncent à tort que les deux religieuses sont mortes. Si l'esclavagiste en chef est bien décédé sur le coup, son assistante est juste gravement blessée. L'une est exposée plusieurs jours avant d'être enterrée en grande pompe au cimetière Saint-Pierre et l'autre est soignée sur place par plusieurs médecins marseillais. Les deux fanatiques religieuses sont présentées comme des victimes et jamais il n'est réellement rappelé leur fonction d'esclavagiste, même s'il est impossible de faire complètement l'impasse sur le motif invoqué par Louis Chave. Dans leurs éditions du 29 février, les deux quotidiens n'apportent pas plus de précisions sur cette affaire, qui pour eux est un crime social, un simple fait divers. La lettre de Louis Chave à sa mère est interceptée par les forces de maintien de l'ordre avant qu'elle ne puisse la lire. Elle apprendra sa mort via les gendarmes. Le petit Provençal est critiqué par ses confrères chrétiens qui lui reprochent la publication de la lettre. Celui-ci annonce qu'il publiera un fac-similé de cette lettre dans son édition du 3 mars pour faire taire ses détracteurs. Le journal lyonnais, leader anarchiste du 3 mars 1884, publie la lettre de Louis Chave reçue 2 jours après sa mort. Sur un ton un peu différent de celui employé dans les lettres envoyées à sa mère et à Le Petit Provençal, il explique qu'il attendait une occasion de passer à l'acte contre celle des hominines qui en exploitent d'autres. Signant Louis Chave, anarchiste convaincu et d'action, il appelle celle qui se disent anarchistes à suivre son exemple, plutôt que d'attendre que d'autres le fassent à leur place et d'avoir toujours sur soi un bon pistolet, un poignard et une boîte d'allumettes.
Je prends la vengeance pour mobile et pour stimulant. J'attendais le moment propice pour commencer la guerre. Ce sont elles qui me l'ont déclaré. Tant mieux. Elles ont devancé l'heure de ma vengeance et de la justice. C'est au cri de vive l'anarchie et de suce aux bourgeois que je vais ouvrir le feu. Car là-dedans, comme dans toute exploitation, il y a les filles des bourgeois et les filles de prolétaires qui servent de domestiques aux autres. Ce sont des fanatiques et des souffres-douleurs. Lettre de Louis Chave à l'hydre anarchiste du 27 février 1884.
Dans l'article intitulé « Vengeance d'un prolétaire », l'hydre anarchiste salue le geste de Louis Chave et rappelle sa situation de prolétaire, exploité pour satisfaire les multiples caprices dont les fanatiques religieuses étaient chatouillées, tout en s'enfonçant toujours plus dans la misère. Il rectifie la vision donnée par les journaux marseillais qui présentent l'acte de Louis Chave comme une violence faite à de braves et charitables femmes et qui font d'elles les victimes alors qu'il s'agit d'un acte suicidaire, de sanglantes funérailles avec illumination et feux d'artifice, selon les propres mots de Louis Chave. Elles ne sont pas victimes de Louis Chave, mais de leurs conditions sociales, celles de vivre du travail des autres et de disposer de leur vie, ce qui ne peut être sans risque. Louis Chave aussi est victime de sa condition sociale, celle d'être exposé au risque permanent de tout perdre sur une simple décision, même la vie. Selon Léonie Levasseur de Sorval, qui se remet doucement de ses blessures, les derniers mots de Marie de Lille Martini sont « Je lui pardonne », méprisant jusqu'au dernier souffle. Pour la protivophilie, un « Je te remercie » était pourtant la moindre des choses. D'une part, elle est ainsi libérée de sa condition sociale, sans avoir à faire elle-même le geste difficile de se suicider. Et d'autre part, selon ses propres croyances, elle rejoint sa divinité plus rapidement. Pour la protivophilie qui croit en rien, étant donné qu'après la mort il n'y a rien, et donc qu'à sa mort, chaque hominine cesse d'exister, mourir n'est jamais une chose grave pour celles à qui ça arrive, mais plutôt pour celles qui leur survivent. Si la tristesse est un sentiment qui existe dans toutes les stratifications sociales, la mort n'a pas les mêmes conséquences pour celles qui restent. De fait, la mort de Louis Chave prive sa mère et son Adelphie du maigre revenu qu'il parvenait à donner, alors que celle de Marie de Lille Martini n'a aucune conséquence économique néfaste sur ses parents. Dans un monde absurde, ne sont-ils pas même plus riches maintenant ?
Je voudrais bien, mais je peux pas. C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Entre la cure et les figures des grenouilles de bénitier, la vie est dure quand on aime rigoler. Mais quand le diable, qui est un bon diable, me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux pas m'en empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Et je voudrais bien, mais je peux pas. Je voudrais mettre une mini jupette et un corsage à trou-trou, mais il paraît que pour faire la quête, ça ne se fait pas du tout. Quand je veux faire un brin de causette avec les gars du pays, je file en cachette derrière la sacristie. Mais quand le diable, qui est un beau diable, me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chapouille, ça me donne des idées.
Le travailleur marseillais, sous-titré « Journal de la classe ouvrière », préfère prendre ses distances face au déchaînement de la Serviane.
Il rappelle que le jeune Louis naît dans un environnement familial chrestien, que son parrain est le curé de Gignac et que toute son éducation est le fait d'institutions chrestiennes. Et que, de plus, il a obtenu sa place de jardinier au couvent grâce aux recommandations de Monsieur Tempier, négociant en cuir clérical de la plus belle eau. Confondant sans doute l'éducation reçue et ce que chaque hominine en fait, mélangeant nécessité économique et affinité, l'article laisse entendre que la lettre de l'hydre anarchiste est probablement fausse et que Louis Chave, loin d'être un anarchiste, est redevable vis-à-vis des institutions religieuses et imprégné de leurs croyances. Il utilise même des arguments fallacieux pour le discréditer. Ainsi, voilà un socialiste qui a été nourri presque dans une église, élevé avec les enfants de l'étoile et qui jusqu'au jour du crime n'a eu d'autres amis que ceux qui l'avaient vu enfant. Jamais dans aucun cercle sa présence n'a été signalée. Et il est sorti de tout ce concours de soins dévots et de conseils religieux, ce beau produit. Un socialiste anarchiste, convaincu et d'action. La confusion est évidente. Le mépris aussi. Quoi de commun entre des cercles socialistes et des anarchistes? Faut-il vraiment avoir vu le jour dans une famille anarchiste pour l'être? L'hydre anarchiste relève, sans le juger, l'étrangeté de concilier anarchisme et emploi dans un couvent. Et il est vrai que dans la lettre à sa mère et celle à Le Petit Provençal, il est fait mention d'une divinité et de son jugement, d'être fier d'être désigné par le doigt de Dieu pour accomplir cette action. Pour autant, à sa mère, il affirme aussi clairement être un anarchiste et invite ses frères et sœurs à se joindre à la guerre que celles qui n'ont rien doivent mener contre celles qui ont tout. De celles qui sont rien contre celles qui ne le savent pas.
N'allez pas croire, ma mère, mes frères et sœurs, que l'acte que je vais accomplir soit un déshonneur pour notre famille. Au contraire, il faut être fier et lever la tête d'avoir eu la gloire de fournir le premier martyr de la révolution sociale qui approche. Car sachez-le bien, une fois pour toutes, ma mère, mes frères et sœurs, une vérité vraie comme le jour. Vos vrais ennemis, ce sont nos maîtres. Ce sont les riches ennemis mortels des pauvres qu'ils exploitent, qu'ils torturent. Je déclare devant tous que je meurs révolutionnaire et anarchiste convaincu que m'importe et que vous importe ce que dira le monde. Lettre de Louis Chave à sa mère le 25 février 1884.
Il n'y a aucune raison de douter des convictions anarchistes de Louis Chave puisqu'il s'affirme comme tel. Le rejet absolu de toute forme d'esclavage n'est-il pas l'essence même de l'anarchisme ? Son acte est une preuve par le fait de son anti-esclavagisme radical. La complexité de ce qu'il était est la propagande par le fait qu'on n'est pas anarchiste et que se penser ainsi est un vaste espace chaotique entre l'être et aspirer à l'être. Vivre anarchiste dans un monde qui ne l'est pas n'est pas facile et n'a rien à voir avec le projet d'un monde où l'anarchie serait l'évidence partagée. En toute humilité, être anarchiste n'est pas aussi simple que s'en réclamer. Se défaire de tout n'est pas rien. Qui sommes-nous pour juger, pour paraphraser le célèbre travesti pape François? Dans un article paru un an plus tard dans Le Droit Social, un journal anarchiste marseillais, Séverin Ferraud tranche dans cette polémique et affirme que Louis Chave appartenait au groupe des paysans révoltés. Lorsqu'il mit la théorie en pratique contre son exploiteur femelle, la matrone d'un couvent de religieuses et la sous-maquerelle, fille d'un grand chef d'assassins à mitraille, puisque ce père était général. Le but de cet article est le lancement d'une souscription pour acheter un revolver pour que un membre de notre groupe aille ajuster le gendarme qui a été décoré du sang de notre ami. La médaille, prix de son crime, que lui a décerné le gouvernement, servira de point de mire à la balle qui doit l'atteindre. Le Droit Social soutient l'initiative et ouvre une souscription dans ses propres colonnes. Dans le numéro du 13 juin 1885, sous le titre « Souscription pour l'achat d'un revolver qui doit venger le compagnon Louis Chave », le journal publie la première liste. 33 paysans de Martigues, 30 membres du groupe anarchiste Les Incendiaires, 47 anarchistes toulonnais et D, de Besançon, donnent 5 francs et 55 centimes pour cette œuvre de vengeance. Nous ne savons rien du prix d'un tel achat et la vengeance n'a pas eu lieu. Pas plus que la fin de l'exploitation et le grand effondrement espéré.
En attendant le moment propice, l'été, on doit faire flamber ou sauter les églises, empoisonner des légumes, des fruits et en faire cadeau au curé. Agir avec les mêmes procédés envers les propriétaires. Que les servantes assaisonnent la cuisine du bourgeois avec du poison, que le paysan tue le garde champêtre quand il passera à portée de son fusil. On peut faire subir le même sort aux maires et aux conseillers municipaux, car ils représentent l'État. Une bonne fois pour toutes, faisons table rase par le feu, le fer et le poison. Le Droit Social du 16 mai 1885.
Thank you.
écœurement.
Pauvre homme, tu ne sauras jamais rien. Tu n'élucideras jamais un seul des mystères qui t'entourent. Puisque les religions te promettent le paradis, aie soin de t'en créer un sur cette terre, car l'autre n'existe peut-être pas. Omar Khayyam, Robayata, cité à l'entrée, 1 est le premier chiffre du nombre qui ne finit pas dans Analecte de rien.
Hormis un chapitre qui lui est consacré dans une histoire des anarchistes à Marseille à la fin du 19e, aux éditions de La Soifée en 2020, et quelques écrits d'un historien de Gignac, la trace de Louis Chave se perd dans la mémoire locale. Noyé dans les innombrables faits divers qui jalonnent l'histoire de la guerre sociale qui se déroule dans les sociétés dominines, évoquée seulement lors de travaux consacrés à l'esclavagiste assassiné.
Dans un contexte anticlérical, les autorités religieuses prennent la décision, en 1899, de transférer la dépouille de Marie de Lille Martini dans un caveau dédié aux filles du cœur de Jésus, en Belgique. Mais c'est seulement en 1906 que la tombe est ouverte. Plutôt que d'y trouver un tas d'os, le corps semble embaumé. Se fiant à un article paru dans le Petit Provençal qui prétend que le cadavre est en état de décomposition lors de l'enterrement, avec beaucoup de naïveté, il se dit parmi les fanatiques qu'il s'agit d'un miracle. Faisant fi du début et de la fin de cet article qui précise que la supérieure était d'une corpulence très forte et le cadavre était déjà hier matin dans un état de décomposition très avancé, on a même eu beaucoup de peine à l'ensevelir dans un cercueil devenu trop petit. Les autorités religieuses n'envisagent pas un instant que l'embonpoint de la religieuse et la compression dans un cercueil trop petit aient pu l'embaumer naturellement. En 1989, après un long processus établi par des spécialistes du sujet, elle est béatifiée par le chef des chrétiens, le pape Jean-Paul, deuxième du nom, souvent écrit Jean-Paul II, pour faire plus tendance, plus hip-hop. Pas en tant qu'esclavagiste, bien évidemment, mais en tant que sainte femme, réalisant un miracle après sa mort. Les éloges qui lui sont faites claquent comme des insultes à l'encontre de Louis Chave, qui est déclaré fou furieux. Elle parle de son sacrifice, parce qu'elle a choisi une vie humble et renoncé, partiellement, aux richesses de ce monde. Mais rien sur le sacrifice de Louis Chave, involontairement privé de la moindre richesse. Elle en vit, il en meurt. Le caractère esclavagiste de la Sainte Femme est nié, et sa mort de la main de Louis Chave est ramenée à un simple crime par haine de la foi, selon l'expression utilisée sur la plaque commémorative située au 109 La Canebière, son lieu de naissance à Marseille. Rien sur la dimension anti-esclavagiste. De la mauvaise foi, car les lettres de Louis Chave expriment clairement les raisons de son acte.
Seul dans la pénombre, avec mon passé, cherchant à me remémorer les choix, les raisons pour lesquelles j'encaisse la monotonie de cette vie. Plus désarmé qu'au premier jour, les années blanches de ma jeunesse se sont laissées posséder. Quand le futur, j'ose même pas y pencher. Vie de ma vie, et pourtant, non, je n'ai pas choisi. Tant le présent n'est qu'un erreur.
Tout a commencé sûrement le jour où je suis né, le jour où je n'ai pas croisé la bonne vie qui aurait fait de moi ce que je ne suis pas. Ce qui m'arrive d'envie parfois, ce que la vie a doté d'une chance, mais moi, malheureusement voilà, je n'en suis pas là. Et privé de ça, pour qui devrais-je mener un combat? De toute façon pas la peine, je connais la rondelle mais j'en ai pas la force. Mon amour pour la vie s'est soldé par un divorce. Moi aussi j'ai rêvé de connaître l'idéal, l'idylle, le désir, la passion pour ne pas perdre le fil. Guidé sur le champ, la ville, s'isoler sur une île au lieu de ça, ma vie file. Se faufiler des pieds sans domicile fixe. J'ai toujours relevé la tête, même à genoux. Mais ce soir je suis fatigué de lutter et pense sérieusement à tout déconnecter.
De nos jours, la momie de Marie de Lille Martini est à voir, exposée dans la basilique du Sacré-Cœur à Berchem-les-Anvers. Même si cela ne se voit pas, le cadavre est celui d'une vierge, non pas dans le sens religieux mais profane. Ces aspects particulièrement macabres se doublent d'un fétichisme outrancier qui consiste à installer des plaques commémoratives. Ainsi, à Marseille, le 109 La Canebière, son lieu de naissance, est orné d'une de ces plaques et le jardin de la Serviane est décoré d'un petit autel sur le lieu même de sa mort. Elle est célébrée tous les 27 février, comme le sont 25 autres saints. Heureusement, et rien de tel pour Louis Chave, il ne mérite pas ça. Ni ritualisation grotesque, ni commémoration illusoire ne sont nécessaires. Louis Chave a agi dans son présent, pas pour son futur. Les miracles n'existent pas. Que ce soit au propre ou au figuré, après la mort, il n'y a rien. Après soi, il n'y a rien. Cette problématique est au centre de nombreux troubles dont souffrent les hominines adeptes de mythologie christienne. L'éventualité qu'il n'y a rien les effraie, et l'idée de se dire qu'il n'y a aucun moyen de le savoir avant de mourir les questionne. Car si c'est le cas, mourir n'offre aucune réponse.
Et vous, qui survivrez à ma cendre glacée, si vous voulez charmer ma dernière pensée, un jour, élevez-moi. Non, ne m'élevez rien. Alphonse de Lamartine, Milly ou la terre natale, cité à l'entrée postérité dans Analecte de rien.
Attachement.
Parce qu'en toute logique, cela mène à rien. La protivophilie tisse des liens en explorant l'œuvre de F. Merjanov pour en découvrir les méandres biographiques, mais aussi les liens qui l'unissent au-delà du présent avec d'autres hominines. La tâche est difficile, et le raisonnement probablement fictionnel, ou tout du moins biaisé. Il en est de même avec Louis Chave. Quels sont ces liens à travers le temps ? Aussi radicalement anti-esclavagiste que Nat Turner, ou aussi anti-autoritaire que des nihilistes russes, Louis Chave se situe dans la galaxie de celles-là qui savent pourquoi et comment y elles vont mourir. Son acte est un suicide individuel collectif, une forme originale de suicide assisté. Les esclavagistes ne survivront pas à l'esclave. Si par ses revendications politiques, la protivophilie n'hésite pas à le rapprocher de Germaine Berton ou Svetlostav Merjanov, il semble indispensable de le relier aussi à Jean Bilski ou Richard Durne. S'il peut y avoir des divergences autour de la question de savoir si la fin justifie les moyens, lui crie haut et fort que dans son cas, la fin, F-A-I-M, justifie ce moyen, anticipant ainsi, de plus d'un siècle, les mots du poète.
Si tu parles comme ça, même si t'es personne âgée, par ta gueule grosse cul, ou tu vas déménager.
Même si leur tristesse et leur colère sont compréhensibles, il est toujours surprenant de constater la surprise de celles-là qui se retrouvent dans le viseur. Comment celles-là, qui ont la richesse, le pouvoir ou la reconnaissance sociale, n'ont-ils pas imaginé être de potentielles cibles pour celles-là qui n'ont rien d'autre que la misère, l'exploitation et l'oubli ? Comment ont-ils pu oublier que la condition sociale qui est la leur est mécaniquement fondée sur des stratifications sociales qui induisent, de fait, des accès différents à l'existant selon la couche à laquelle on appartient ? Le rappel peut être douloureux, voire sanglant. Il ne s'agit pas de jalousie, mais de vengeance.
Bien avant lui, et des siècles après, l'histoire des hominines est pleine de Louis Chave. Pourquoi devrait-il en être autrement ? Si certains, en mourant, se sont fait un nom et vivent leur quart d'heure de gloire, tels Richard Durne ou Human Bomb, d'autres retournent dans l'anonymat le plus complet à leur mort. Si la plupart des hominines se suicident en solitaire, sans impliquer d'autres hominines, d'autres se demandent « Si j'appuie sur la gâchette, ne devrais-je pas en profiter au passage pour éclater un type des acédiques ?» La grande attente n'est alors plus celle des résultats de la loterie nationale, et la question n'est plus celle des 1000 euros, mais du grand jeu populaire « Ce soir, je brûlerai ». Ainsi va la guerre sociale, comme le rappelle le nutritionniste Valentin Valde Ledu dans sa Macédoine d'évidence intitulée « Ce monde est cruel ».
Ni se nourrir, ni se loger n'est gratuit. Je crois qu'avec ça j'ai tout dit. Ce monde est cruel.
Ce monde est cruel.
Ce monde est cruel.
Dans sa lettre à sa mère, Louis Chave résume son geste en quelques mots qui sonnent comme une épitaphe commune aux hominines faisant des choix similaires.
Que m'importe et que vous importe ce que dira le monde.
Tout sur rien, c'est sur Radio Qui Pique. Le mercredi à 12h et le dimanche à 19h.